Bonjour à tous.
Ça marche?
Ça marche. Bonjour.
Donc, Conuxo va nous présenter un peu son activité. Donc, Arnaud et Florian, et puis un peu votre expérience d'utilisation d'Azure.
Très bien. D'abord, je vais commencer par présenter la solution Conuxo. Et ensuite, Arnaud témoignera de nos usages sur Azure. Donc, je suis Florian. Avec mon ami Arnaud, on développe le projet Conuxo, qui permet de créer, mais surtout de partager des checklists intelligentes. L'idée est simple, mais notre volonté est de proposer une vraie alternative au partage de connaissances sur Internet, tels que les wikis, les blogs ou les forums de discussion. Le projet se compose en deux parties, d'un côté l'éditeur de contenu et de l'autre la checklist Conuxo. Donc, bien sûr, avec l'éditeur, on peut lister des tâches. Par exemple, ici, ce qu'il est recommandé de faire avant de partir au Japon. Et pour chaque tâche, on peut créer un contenu enrichi qui peut contenir donc du texte mis en forme, des images et même des vidéos. Mais plus qu'une checklist classique, les 7 tâches peuvent être séquencées les unes par rapport aux autres. On peut également séquencer des groupes de tâches, comme ceci. On peut ajouter des questions au sein des checklists. Donc à l'issue de mon préparatif, je choisis une ville. Et on peut ajouter également des liens entre les tâches. Donc, par exemple, en ajoutant un lien ici, je fais une boucle. Après avoir visité Tokyo, je reviens à la question quelle ville. Donc voilà, on a tous les outils pour créer de simples checklists pour partager avec ses proches, mais également des processus complexes qu'on va pouvoir utiliser en entreprise. Et une fois créé, l'exécution de ces checklists ressemble à ça. Les tâches réalisées passent en arrière-plan. L'arrière-plan permet également de voir toutes les tâches séquencées. Par exemple, après avoir réalisé tout mon préparatif, la question « quelle ville ?» passe au premier plan. Voilà. Et en cliquant sur le titre d'une tâche, je peux voir son contenu enrichi assez facilement. Ces checklists pourront être ensuite partagées par email, sur Facebook. On peut les intégrer dans n'importe quel site web, comme on le ferait avec une vidéo YouTube. Mais surtout, les utilisateurs pourront les emporter avec eux dans leur téléphone portable et ainsi être guidés pas à pas pendant leur voyage, par exemple. Voilà. Je vais laisser la parole à Arnaud qui va vous parler de l'histoire d'amour entre Conuxo et Azure.
Merci, Florian. Oui, une histoire d'amour. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'un coup de foudre parce qu'en fait, on aimait bien les technologies Microsoft comme vous depuis pas mal de temps. Mais surtout, par rapport à notre start-up, c'est essentiel de pouvoir héberger notre contenu sur un website Azure. Évidemment, c'est un avantage indéniable. Si jamais on grossit, si jamais on a de la chance de grossir et d'avoir beaucoup de trafic, eh ben on peut scaler très facilement avec Azure, et ceci à moindre coût, ce qui n'était pas forcément possible il y a quelques temps. Donc Azure facilite beaucoup le travail pour les startups notamment. Donc là, je vais vous parler de notre approche par rapport à l'architecture. En fait, au départ, on était parti sur un front-end qui soit entièrement en ASP.NET MVC et avec un dialogue sur un back-end qui soit donc une base de données dans Azure. Donc ça, c'était l'idée de départ. Ensuite, en réfléchissant un peu mieux, on s'est dit on allait faire une API. Donc l'API, ça nous permettrait de dialoguer avec d'autres devices, mobiles, tablettes, etc. Et on a fait discuter le front-end avec l'API. Sauf que là, on avait un petit doublon, c'est-à-dire qu'on avait nos contrôleurs qui étaient du côté de l'API et nos contrôleurs qui étaient du côté de l'ASP.NET MVC. Donc on a switché l'ASP.NET MVC par un framework full JavaScript. Donc je ne sais pas si vous connaissez Durandal et Knockout. C'est maintenant ce qui compose notre front-end. Ensuite, on s'est dit... on a une base de données, certes, on va stocker toutes nos checklists qui sont bien dématérialisées, mais pour tout ce qui est contenu enrichi que vous a présenté Florian, ça prend un petit peu de place, et dans la base de données, évidemment, ça risque de grossir et ça risque de coûter un petit peu plus cher. Donc on a divisé en deux, on a nos checklists qui sont dans la base de données, et tout le contenu enrichi, vidéo, audio et articles HTML qui sont dans le storage. Et dernier point... voilà, on avait l'intention de faire une authentification, évidemment, depuis les providers Facebook, Google et Microsoft. Et pour se faciliter la tâche, en fait, plutôt que de refaire réinventer la roue, on a utilisé le module d'authentification avec les mobile services, donc qui est directement intégré, qui nous permet, à partir du portail, avec des petits scripts en Node.js, de discuter avec les providers et de récupérer les informations, et notamment le token pour après discuter via l'API. Alors, voilà pour mobile services, et on s'en sert aussi. Tous nos users seront intégrés dans Azure Active Directory. Donc ça sera les users de Conuxio.com. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc en fait, c'est une petite architecture modeste, mais qui nous rend service aujourd'hui pour notre solution. D'ailleurs, dernier point, je vous invite à venir visiter l'exemple qu'on a mis en ligne sur notre landing page. Donc c'est juste un exemple. C'est l'exemple dont vous a parlé Florian. Vous pouvez regarder. Jeter un œil à cette checklist au cas où vous souhaiteriez partir au Japon. Et puis, si jamais vous êtes intéressé par notre solution et vous voulez devenir un utilisateur plus tard, vous pouvez nous laisser un email ou un commentaire si vous avez apprécié l'exemple. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Vous avez l'URL, Conuxio.com.
C'est ça.
Super. Merci beaucoup. Alors, peut-être architecture petite pour l'instant, peut-être, mais de quoi Conuxio pourrait bien avoir besoin, à part des sponsors, pour faire grossir son site? Bon, d'argent, évidemment. Et avec de l'argent, on pourrait peut-être acheter du cash distribué. Et pourquoi est-ce qu'on fait les transitions qu'on peut, hein? Je suis désolé. Mais... Donc, pourquoi un cash distribué? Effectivement, bonne question. Typiquement, très souvent, pour répondre à des problématiques de montée en charge et de performance, hein, améliorer les temps de réponse pour renvoyer un résultat plus vite, notamment en allégeant la charge sur la base de données. Donc, au lieu d'aller requêter une base de données fatiguée et un peu lente, on va cacher les objets ou les réponses en mémoire. On peut les cacher en mémoire, évidemment, sur le serveur web local, mais si on a 2, 3, 4 serveurs en load balancing, ce qui serait idéal, plutôt que de dupliquer ce cache sur tous les frontaux, c'est d'avoir un cache central dans lequel tous les frontaux peuvent taper, et donc un cache rapide, un cache mémoire, mais distribué afin d'être hautement disponible et afin de pouvoir répartir, on va dire, les requêtes sur l'ensemble des nœuds de ce cache. Entre autres, cas d'usage classique, on a les fameuses, on va dire, sessions utilisateurs. Donc, si vous utilisez des sessions basées sur les cookies pour suivre vos utilisateurs et que vous avez, encore une fois, plusieurs frontaux de balancing, ce qui est évidemment recommandé, vous avez la problématique que chaque session est stockée localement sur chaque frontal web. Et donc, si ça vous oblige à renvoyer toutes les requêtes d'une session utilisateur sur le même frontal. Si vous voulez pouvoir avoir du vrai load balancing et que donc la requête puisse atterrir à chaque fois sur n'importe quel frontal, ce qui vous donne une meilleure disponibilité, ben vous avez besoin de rendre vos frontaux, on appelle ça stateless, donc sortir les sessions des frontaux et les mettre quelque part. Alors où? En base, franchement, pas une très bonne idée. Le cache mémoire distribué, c'est le meilleur endroit pour mettre ces sessions utilisateurs. C'est ce qu'on recommande de faire par défaut. Alors on n'est pas obligé, puisqu'on a maintenant avec les websites, on a des moyens de faire de l'affinité de session. Mais si vous voulez avoir la meilleure haute disponibilité, la meilleure scalabilité, on conseille d'avoir des frontaux stateless, donc de ne pas utiliser les frontaux pour stocker les sessions, d'avoir un load balancing sans affinité de session et de mettre les sessions dans un cache distribué central. Alors ça tombe bien, parce que des caches, on en a plein, d'accord? Donc je vais essayer de faire un petit peu la liste, en passant rapidement évidemment sur ceux qui sont un peu sur la voie de sortie. Dans l'ordre plus ou moins de préférence, bon, le dernier, on va dire, annoncé, c'est le Azure Redis Cache, donc c'est un Redis as a Service, annoncé à TechEd, actuellement en preview. Ensuite, on a le Managed Cache Service, qui est le cache principal, on va dire, pour les développeurs .NET aujourd'hui en production. On a In-Role Cache, qui est un peu un cache à construire soi-même. On a le Shared Caching Service, à ne pas confondre avec l'autre, qui lui est deprecated, il est en voie de sortie. Et puis, on a des offres partenaires. D'accord, dans le store, on a des gens qui offrent des caches distribués, ou même en dehors du Azure Store, à vrai dire, hein, ce qui augmente encore les choix. Donc, rapidement sur le Shared Caching Service, c'est notre ancienne offre de cache. Alors, je ne vais pas vous demander de retenir tous les noms, parce qu'ils se ressemblent tous, les noms. Mais globalement, il n'est plus disponible que dans le portail Silverlight. D'accord, il sera débranché le 3 septembre, on débranche tout. Donc il faut migrer, hein, si vous l'utilisez, dans l'ordre, vers le Redis Cache ou le Manage Cache Service, qui est le donc, nouveau cache qui remplace le Shared Cache. Donc je vais y revenir, mais si vous utilisez le Shared Caching, vous voulez migrer sans changer le code, il faut aller sur le Manage Cache Service, qui est entièrement compatible. Donc globalement, si vous êtes obligé d'aller sur un portail comme ça pour trouver votre cache, ça veut dire qu'il va falloir y aller. Hein. Il ne faut pas rester là. Vous voyez, il n'y a plus que le cache dans le portail. Donc il est temps de plier les bagages. Et si vous n'êtes pas sûr, il y a un gros warning en rouge. Donc si vous voyez ce warning-là en rouge, il faut le lire. Hein. Donc 1er septembre, on éteint. Il faut aller ailleurs. Premier choix, les possibilités actuellement supportées, le in-roll cache. Nos caches qui ne sont pas Redis, les caches faits par Microsoft, s'appuient tous sur la même techno qui est AppFabric Cache, ancien nom de code Velocity. Donc c'est une technologie qu'on a dans les cartons depuis longtemps et qu'on a décliné plusieurs fois. Le in-roll cache, c'est un cache à faire soi-même. D'accord ? Donc on ouvre Visual Studio, on utilise le SDK Azure, on crée un cloud service, on met dedans des worker roles, et dans les worker roles, eh ben, il y a un worker role de type cache. D'accord ? C'est comme ça qu'on se construit son propre cache. Donc au départ, c'était conçu pour pouvoir avoir un cloud service dans lequel on a des web roles, un web role avec 2, 3, 4 instances, et les web roles pouvaient aussi faire cache. D'accord ? Si on fait un worker role dédié, évidemment, ce sont des instances qui sont dédiées à faire que du cache. Donc vous mettez autant d'instances que vous voulez. Donc vous avez vraiment en pleine maîtrise du nombre de machines, leur format, la quantité de mémoire, la configuration de tout ça, vous pouvez tout choisir, donc c'est très bien. Ça supporte toutes les fonctionnalités d'AppFabric, évidemment. On peut l'utiliser pour stocker le fameux session state, hein, l'état des sessions, et puis le page output. Bon, c'est surtout les sessions. Donc c'est un truc qui est bien. On va dire le seul bémol de tout ça, évidemment, c'est qu'une fois que vous avez publié le cloud service, il faut quand même le gérer. Hein, il faut le surveiller. De temps en temps, il y a des guest OS updates. Il faut le maintenir un minimum. Ce n'est pas un truc complètement transparent as a service. Okay. Par contre, évidemment, vous pouvez, on va dire, le configurer exactement comme vous voulez. En plus, petit bonus, de nos offres de cache, c'est la seule qui permet de faire du memcached, donc du protocole compatible memcached. On va simplement, dans la configuration du service, on rajoute un endpoint qui doit avoir le nom magique memcache underscore default, et pas autre chose. Et ça va activer la compatibilité memcache. Et donc, vous avez du coup la possibilité de vous y connecter depuis du PHP, depuis ce qu'on veut, avec un client memcache quelconque, une librairie memcache qu'on veut. OK, ça c'est sympa. On a aussi un client Shim qui marche qu'en .NET, donc j'ai toujours pas bien compris l'intérêt. Donc, si on veut faire du memcache spécifiquement, j'ai besoin de faire du protocole memcache, celui-là permet de le faire. Donc ça c'est bien. Donc, je savais bien que j'avais des captures d'écran. Donc ça ressemble à ça en fait. Quand on va dans les propriétés du worker role dans Visual Studio, on voit que le cache est activé. Il est activé ici, il est dédié, donc l'ensemble de la mémoire sera utilisé par le cache, et on peut le configurer ici, donc on peut configurer tous les settings qu'on veut. Et après, donc si je clique dans l'onglet là, Endpoints, j'ai simplement rajouté l'onglet Memcache Default ici, et ça m'expose le service pour Memcache. Donc c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas spécialement envie de maintenir un cloud service, juste pour ça. D'où le Manage Cache Service. Okay. Même technologie, AppFabric Cache, mais c'est nous qui gérons le cluster. Okay. Donc lui, il est en prod, on va le voir jusqu'à 150 gigas de cache, on peut avoir de la haute disponibilité, d'accord. Donc c'est un cache distribué entièrement à ce service, ce qui est basé sur la même technologie que donc, l'ancien shared cache et le in-roll cache. Donc, seule petite subtilité, aujourd'hui on ne peut pas le créer depuis le portail. Okay. Donc ça va venir, en attendant, il faut faire un petit coup de PowerShell, pour créer le cache. Donc on fait add Azure account, ça permet juste de se connecter. Hein. Add Azure account en PowerShell, ça vous ouvre une boîte de login mot de passe de l'administrateur. Et ensuite vous faites un new Azure Manage Cache, son nom, son emplacement. La SKU, on va regarder, ça dépend du pricing et des fonctionnalités, et puis la taille, évidemment, qu'on veut avoir. Et une fois qu'on a fait ça, on voit le cache dans le portail. Je peux le prouver, en voilà. Alors il y a marqué en gros looking for new Azure Redis cache. Donc, pour l'instant on ne s'intéresse pas à ça. On voit ici qu'une fois que j'ai créé mon cache ici, je ne sais plus comment, Azure, aucune idée, j'ai pas une. Bref, il arrive là, je peux le surveiller, le configurer, Notamment, bon, éditer le TTL, et puis le changer de SKU, donc de taille, d'édition. Voilà. Basique, standard, premium, et puis après j'ai un nombre d'unités. D'accord, donc avec ça, ça me permet de monter jusqu'à 150 gigas de mémoire distribuée. Ça finit par coûter cher, mais en tout cas, c'est très performant et on peut cacher beaucoup de choses dedans. Donc ça, c'est le Manage Cache. Donc c'est celui, voilà, c'est celui qu'il faut utiliser. Ok. Comment est-ce qu'on l'utilise? Ben, depuis .NET, parce que seul petit bémol, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre librairie que .NET pour ce cache. On ajoute le package Windows Azure Cache, d'accord? Donc NuGet vous télécharge la librairie. Il modifie votre web config, d'accord? Alors parfois, surtout quand on met à jour le package, il vous le remodifie, sinon ça c'est un peu énervant. Donc on fait attention, on va regarder le web config, voir ce qu'il a mis. Il faut globalement éditer la configuration, mettre sa clé, l'URL du cache, et on est parti. L'API est très très simple. Une fois qu'on a fait ça, on a globalement put et get, d'accord. C'est ce qu'on attend d'un cache mémoire distribué globalement, hein. Pouvoir y cacher des objets et les récupérer plus tard. Alors il y a un certain nombre d'autres fonctionnalités quand même, puisque ce manage cache service, contrairement à l'ancien, recouvre, enfin gère toutes les fonctionnalités AppFabric, donc les régions, les tags, etc. Si vous avez déjà utilisé AppFabric, on va dire à demeure. Donc je vous ai parlé des SKU, voilà globalement à quoi ressemble le prix. Hein, donc la plus grosse instance premium, vous pouvez avoir jusqu'à 30 unités de 5 gigas. Voilà, mais c'est celle qui vous permet d'avoir la haute disponibilité, donc la réplication de vos données sur plusieurs nœuds de cache. Donc ça c'est, bon, à vous de voir, ça dépend quand vous utilisez le cache. Hein. Généralement, l'utilisation de base, c'est qu'on regarde dans le cache et s'il n'y a pas, on va chercher en base, d'accord? Donc du coup, la haute disponibilité n'est pas forcément complètement 100% nécessaire toujours. Mais si vous en avez besoin, voilà, l'SQ Premium permet de faire ça. Donc, le Redis Cache, donc annoncé à TechEd assez récemment, actuellement en preview. Alors celui-là, à subtilité, on ne peut le créer que depuis le nouveau portail, d'accord? Donc on n'est pas dans l'ancien portail, dans le nouveau, mais dans le nouveau. Le nouveau, c'est celui-là, d'accord? Ah, il est beau. Donc, on va dans Nouveau, on va dans Redis Cache, ici, et on peut créer un nouveau Redis Cache. C'est là qu'il est, et pas ailleurs pour l'instant. Donc, pas peine de le chercher partout dans PowerShell, etc. Il est là. Redis 2.8, donc c'est une version récente de Redis, qui a été portée sur Windows par Microsoft. D'accord, enfin, ça vous concerne pas, c'est plus pour la petite histoire. Hein. Pour vous, c'est un service prêt à l'emploi. Donc Redis n'est pas basé sur AppFabric Cache, n'est pas une solution Microsoft à la base, c'est une solution open source, mais qu'on a portée dans Azure. Malgré tout, on peut l'utiliser pour faire le ASP.NET Session State, qui est encore une fois un des trucs les plus importants. Donc on fournit un module, un package NuGet qui permet de faire ça. Okay, donc ça c'est check. On va avoir deux configs, une config avec un seul nœud, puis une config en mode master slave avec plusieurs tailles. D'accord, donc on pourrait avoir de la haute dispo, c'est ça que ça veut dire, le master slave. Donc ça ressemble à ça, hein, vous voyez, donc actuellement en preview, là, on peut avoir en standard jusqu'à 1 giga de cache. Et je vais revenir sur Redis, parce que c'est quand même important. Et puis finalement, par exemple, une offre partenaire, redislabs.com, alors qui n'est pas complètement affilié à Redis, hein, ce que j'en ai compris, propose, je le signalais surtout, donc il propose un Redis Cloud, qui est un autre Redis as a service, et un Memcache Cloud. Donc ça, c'est intéressant aussi. Si vous voulez vous chercher du Memcache distribué, prêt à l'emploi, géré par quelqu'un, eux, ils ont une offre, Memcache Cloud. Voilà, prêt à l'emploi, vous choisissez la taille et ça vous fait un Memcache. Bon, ça, c'est pratique si vous avez besoin de gérer spécifiquement du Memcache. Donc, un zoom rapide sur Redis, évidemment, totalement impossible d'en faire le tour dans les 8 minutes qui me restent. Mais comme c'est une nouvelle offre avec une nouvelle techno, juste quelques mots pour peut-être vous donner envie d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc le fait qu'on travaille dessus, qu'on le porte sur Windows et qu'on continue de le porter sur Windows, qu'on l'inclut dans Azure, évidemment, ça implique qu'on l'a regardé, qu'on l'a comparé avec beaucoup d'autres solutions de cache, y compris les nôtres, et qu'on a trouvé que c'était probablement une des meilleures. D'accord. Donc, je dirais que c'est même dans pas mal de littérature aujourd'hui, suit le cache qu'on conseille en premier, d'accord? Parce que c'est plus universel. Donc, dans les mots de Redis eux-mêmes, c'est donc un key value store, hein, donc ça reste clé valeur dans le principe. Par contre, en termes du type de structure de données qu'on peut stocker, c'est beaucoup plus polyvalent qu'un même cache ou un app fabric, puisqu'on peut cacher des structures de données plus complexes. et assez intéressantes, comme des hashes, des listes, des ensembles, donc des sets, des ensembles liés. Donc Redis fait plus de choses, on va dire, qu'un simple memcache, typiquement. Donc en termes de structure de données, le type de base, c'est une chaîne, d'accord, une chaîne qui peut évidemment comprendre, contenir des nombres, des entiers, etc. Donc ça, si on l'utilise et qu'on se limite aux chaînes, ça va ressembler à un memcache, simplement clé valeur. On a ensuite des hashes, donc c'est un ensemble de clés valeurs. Donc à Toto, j'associe un ensemble de A égale 1, B égale 2, C égale 3, donc un hash. Je peux avoir des listes, donc ce sont des listes de chaînes, hein, on reste sur le type de base qui est une chaîne. Une liste de chaînes, donc une liste ordonnée, je peux rajouter des éléments à la fin ou au début. Okay. Donc une liste liée, une linked list. Des sets, donc c'est un ensemble de chaînes pas particulièrement ordonné, d'accord, un groupe de chaînes. Et puis des chaînes triées, d'accord, donc c'est des chaînes, un ensemble de chaînes à qui je peux associer un score à chaque chaîne, et quand je vais les requêter, elles vont me retrouver, je vais les récupérer triées par le score. Hein, d'accord, donc au cas où vous n'auriez pas deviné, Redis est très utilisé dans le monde du gaming, des jeux en ligne, etc. Donc pour faire une table de high score, Redis vous donne la fonctionnalité toute faite quasiment. Autre chose très intéressante quand même dans Redis, c'est qu'il permet de faire des opérations atomiques. Opérations atomiques, ça veut dire que même si on a plein de frontaux qui accèdent à Redis pour exécuter l'opération, Redis vous garantit qu'il n'y aura pas de race condition et que l'opération sera effectuée une seule fois et que vous aurez la bonne valeur. Alors, très intéressant également sur un compteur. On peut faire INCR sur une clé, sur une valeur de clé, ça va vous retourner la valeur plus 1. Avec la garantie que personne d'autre s'est inséré dans la requête, etc., et n'a pu augmenter la valeur en même temps que vous. Donc ça, c'est super pratique, il faut bien avouer, pour faire des algos répartis. Alors, il finira par y avoir une contention à un moment donné, si tout le monde essaie d'incrémenter la même clé, bien sûr, hein, au bout d'un moment, Redis finira par coincer, il faudra faire quelque chose. Mais en tout cas, il vous garantit, je dirais, l'intégrité de la valeur. Idem, on peut ajouter des choses dans une liste de façon atomique. On peut incrémenter une valeur au sein d'un hash, de façon atomique. Donc voilà, ajouter des choses, donc appender des caractères à une chaîne, tout ça sans avoir à se soucier de faire du locking ou de garantir qu'il n'y a qu'une seule personne qui le fait en même temps. Donc ça, c'est quand même très très utile dans ce que fournit Redis. Et puis il fait plein d'autres choses. D'accord, il fait des transactions, donc on peut grouper un ensemble de choses dans une transaction. Il fait du publish-subscribe simple. D'accord, on peut s'abonner à un topic et recevoir des chaînes de caractères quand quelque chose est publié dedans. On peut faire de l'eval, donc on peut faire des sortes. Donc il embarque un moteur Lua, qui est un moteur de scripting, et on peut faire globalement des procédures stockées en Lua. D'accord, donc faire des evals de. On peut mettre des TTL sur les valeurs pour qu'elles expirent automatiquement. Voilà, on peut faire plein de choses et il y a évidemment des SDK pour quasiment tous les langages. Donc quelque chose de assez puissant. Concrètement, comment on fait pour l'utiliser? Une fois qu'on a créé le Redis, on a un URL de connexion. On supporte les connexions SSL. Pourquoi? Parce que notre cache, il tourne dans une bulle. Si vous y connectez depuis un autre service, à un moment donné, les infos vont transiter quelque part. D'accord, bon, potentiellement dans notre data center, mais potentiellement à l'extérieur aussi, si vous le faites comme ça. Donc on peut tout crypter en SSL. Tous les clients Redis ne supportent pas SSL. Mais on a un blog là que vous pouvez aller voir dans lequel on a une liste des librairies qui supportent SSL. Mais enfin, si vous ne voulez pas faire des SSL, ça marche aussi. Et il faut simplement présenter un mot de passe pour accéder à son cache, évidemment. Donc en PHP, ça ressemble à ça. Donc Predis, c'est une librairie Redis populaire en PHP. Il y en a plusieurs. Hein. On lui donne simplement le host donc, que vous a fourni le portail, le port qui est le port standard, et la clé secrète que le portail vous a donnée aussi, et c'est tout. Après, on peut faire cette get et utiliser toute l'API Redis. Si on fait du .NET, alors actuellement, on conseille plutôt stackexchange.redis, comme il y en a plusieurs là aussi, hein, clients Redis en .NET. Celui-là, je pense qu'on le conseille parce qu'ils ont implémenté SSL. Et qu'on aime bien, je pense, l'idée que le cache soit accessible en SSL. Donc, c'est le même principe, on donne le mot de passe et l'URL. Simplement, ici, on peut mettre SSL égale true. Et du coup, on peut faire des sets et des get. Ce qui est encore une fois le B à bas de ce qu'on attend d'un cache distribué.